Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai l'impression qu'on vit dans un monde où la peur, l'anxiété et le manque de sens est partout. Il y a quelques années, après une profonde remise en question, j'ai pris la décision la plus importante de ma vie, celle de m'écouter. De ne plus me laisser guider par mes doutes, mes craintes, mais simplement d'écouter mon instinct, d'agir et de faire. Et progressivement, ça a littéralement tout changé. Je suis Teddy Brodley, je suis entrepreneur et coach, et j'ai décidé pour ce deuxième podcast de partir à la rencontre de ceux et de celles qui entreprennent leur vie pour vous aider à les comprendre et à éveiller chez vous l'envie de devenir qui vous êtes vraiment. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Susanna et sans plus attendre, je vous laisse découvrir son histoire. Bonjour Susanna, bienvenue dans ce podcast. Comment vas-tu en cette très très belle journée?
Bonjour Teddy, ça va très très bien et je vais très bien parce qu'en plus, il neige dehors. Donc c'est magnifique en Dordogne de voir ça.
Écoute, il a neigé il y a 2 jours par chez moi et c'était vraiment chouette. Et là, ça tient encore un peu. Donc, c'est absolument magnifique quand tu regardes par les fenêtres, c'est chouette. Alors, messieurs, dames, nous n'allons pas parler météo aujourd'hui. Voilà, on va faire la connaissance ensemble de Susanna. Bah, est-ce que tu peux te présenter, ma chère Susanna, déjà pour introduire?
Alors, comment me présenter? Peut-être par mon travail déjà, c'est ce qu'on fait en société. Je suis donc en freelance, je suis cadreuse monteuse, vidéaste, photographe professionnelle. J'ai un podcast depuis 2 ans. C'est l'activité de cœur que je fais à côté de mon job, qui s'appelle Fleur de Cactus. Et d'ailleurs, c'est le podcast qui nous a permis de nous connaître, Teddy.
Me semble-t-il.
On a un peu les mêmes intérêts. Donc voilà, en gros, pour faire simple.
Merci pour ça. Si tu pouvais me raconter un petit peu ton parcours à tout point de vue, voilà, qu'est-ce que tu aurais envie de partager?
Mon parcours, je dirais que mon parcours a évolué sous l'étendard de l'art de manière générale et de la créativité. C'est vraiment au cœur de toute ma vie depuis que je suis toute petite. Parce que bon, déjà mon papa mexicain est artiste peintre, donc j'ai baigné au milieu des pinceaux et des tableaux et d'un studio de peinture dégueulasse, mais en même temps dans un joyeux bordel.
C'est un artiste, hein. Les artistes ne rangent jamais.
et ma maman, c'est avéré être une artiste aussi sur le tard, donc elle peint aujourd'hui beaucoup. Et donc voilà, l'art fait partie de ma vie, c'est quelque chose qui a toujours guidé mes choix, qu'ils soient professionnels, personnels. Mon parcours scolaire universitaire, je dirais qu'il est très axé littérature, sciences humaines. Donc après avoir fait 2 ans en Hippocagne, et d'ailleurs je ne sais pas vraiment à quoi ça m'a servi, je dirais, sur mon parcours professionnel, mais je me suis rendu compte bien plus tard en quoi ça m'a servi, j'y reviendrai peut-être plus tard. Mais voilà, 2 années bien dures en classe préparatoire, et après j'ai passé un master études latino-américaines. Donc je suis revenue un peu aux sources à travers ce passage du master, avec une majeure en sociologie et anthropologie, et grâce à ça, en fait, à ce master-là, j'ai pu passer pratiquement 1 an, je ne sais plus, 6 mois, en terrain de recherche dans le sud-est du Mexique, à étudier en fait la musique noire du Quintana Roo. Et donc c'était une super expérience parce que j'ai rencontré les Mayas, les communautés sur place là-bas, les Garifunas, donc qui sont une communauté ethnique du Belize et qui sont issus en fait de l'exportation de la main d'œuvre à l'époque africaine qui avait été marchandisée par les Espagnols. Donc bref, pour faire simple, je me suis éclatée. Donc toujours, c'est-à-dire que mes choix ont toujours été guidés par le plaisir, par du bon sens aussi et par beaucoup de joie. C'est-à-dire que je choisis le chemin qui va vraiment me remplir le cœur et l'âme. Et je ne savais pas vraiment où ça allait mener. Je me disais, bon, bah, je vais faire de la coopération internationale, donc sûrement bosser dans les ambassades, les ONG, je sais pas, je savais pas trop. Et en fait, incroyable, je fais une rencontre, l'oncle de mon meilleur ami à l'époque, qui est mon chéri aujourd'hui d'ailleurs, pas l'oncle, hein, le meilleur ami.
On avait compris, mais après tu as le droit.
Et donc il me parle du Népal. Et le Népal, alors là, je savais à peine où c'était sur la carte. Moi, j'avais toujours évolué dans un milieu très latino-américain. Je parle espagnol. Je suis fan de l'Amérique latine. Enfin bref, quoi. Je suis née là-bas en plus. Donc vraiment, quelque chose de très, très fort avec l'Amérique latine, le Mexique. Et je pensais me chercher un job sur place, quoi, en allant en Amérique latine. Et là, il me parle du Népal. Il me parle du chamanisme. Et je me dis, mais attends, mais il y a du chamanisme là-bas, c'est incroyable, c'est bizarre. Et parce que pour moi, le chamanisme, on trouvait ça en Amérique latine, surtout en Amérique latine. Et en fait, il s'avère que les racines du chamanisme eh bien, sont situées en Sibérie, donc en Asie. Et donc, je pars au Népal. Je vais au Népal, j'ai mon master en poche. Et je cherche un job donc auprès des Nations Unies, des ONG, tout ça. Ça marche pas trop. Et au final, ben, je me retrouve à faire des photos pour le plaisir. C'est quelque chose qui m'animait depuis très longtemps. Et je m'étais acheté un appareil photo en fait 2 ans auparavant, donc je commençais déjà à faire des photos ci et là. Et en fait, ben, c'est devenu mon job quoi. Mais bon, là, c'est encore une autre discussion.
C'est encore un autre sujet. T'as dit je voudrais revenir sur deux choses. Ouais. Tu as dit, j'ai toujours fait mes choix par rapport au bon sens. Alors du coup, c'est quoi le bon sens?
Je pense que le bon sens pour moi, c'est ce qui va dans le sens du cœur, de son cœur à soi, de ce que nous dit notre bon sens, c'est-à-dire notre petite voix, ce qui nous fait... Enfin, j'aime pas trop ce terme de petite voix, c'est vraiment ce qui nous fait plaisir. Qu'est-ce qui nous fait plaisir dans la vie? Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Et cette question-là, on me l'a mis comme une graine dans la tête quand j'étais petite avec mes parents, parce que mon père était artiste et lui, bah, il a jamais eu de job de sa vie, quoi. Il a toujours peint, il a galéré, hein, financièrement parlant, mais je ne l'ai jamais vu... enfin, triste, ou il a toujours été très heureux de faire ce qu'il faisait. Et il était très fier de ça aussi. Enfin, il est toujours très fier de ça. Et donc, j'ai eu cet exemple-là de quelqu'un qui s'éclate dans son job. C'est-à-dire que le travail, étymologiquement, qui vient quand même du mot torture, hein. Donc on fait déjà une fausse route, mais pour moi, le travail doit vraiment nous remplir. Sinon, le cœur, sinon à quoi bon? À quoi bon vivre? Vu que c'est 80%, 90% de notre temps, on met toute notre énergie dedans parce que c'est ça qui nous permet de vivre dans ce monde qui est fait tel qu'il est aujourd'hui. Pour moi, c'est ça le bon sens. C'est vraiment d'aller dans le sens du cœur.
Et du coup, le fait d'avoir exploré différents pays, différentes cultures, d'avoir rencontré entre guillemets, certaines fois des minorités à travers les tribus. Mm-hmm. Voilà. Ça te donne quelle clé de lecture du coup du monde, de la société aujourd'hui?
Qu'on fait parfois fausse route, mais que aussi... C'est-à-dire que les communautés ethniques que j'ai rencontrées, donc les Mayas, les communautés ethniques que j'ai rencontrées au Népal, en fait, elles ont tout un point commun, les Galefunas au Belize, elles ont une joie de vivre que nous, on a perdu. Et pourquoi? Parce que je pense que déjà le travail n'est pas au cœur de leur priorité. Ce qui est au cœur de leur priorité, s'ils ont des priorités, tu vois, je ne sais même pas si mon priorité existerait dans leur cosmologie. Mais en tout cas, ils sont connectés à leur famille, connectés à la nature, connectés au rythme des saisons. Donc en fait, leur mode de vie est fait de telle manière qu'ils suivent un long fleuve tranquille et pas tranquille, et s'adaptent et continuent. Alors que nous, on vit dans un monde où tout est dicté par le travail, par l'argent. si t'as pas d'argent en France, dans la société occidentale, tu n'es personne, tu n'as pas d'identité. C'est-à-dire, en soi, on demande qu'est-ce que tu fais dans la vie. Si tu dis que t'es au chômage, on te regarde avec des yeux un peu uluberlu, en mode, bon, il fait rien de sa life, lui. C'est déjà très stigmatisant, en fait. Et donc, le travail, donc, forge notre manière de vivre et de faire. Donc, à partir de ce moment-là, on est tout de suite dans un comportement de besoin. Et si ce besoin n'est pas satisfait, on tombe dans le stress. Et donc, si on est dans une situation de stress, eh bien là, s'installent toutes les maladies mentales, physiques, possibles et imaginables.
Est-ce que tout n'est pas un chemin, quand même, malgré tout ?
Totalement. Totalement. Parce que tu vois, quand je te parlais de l'appareil photo, tu vois, donc je faisais mes études, je terminais mon master et je me suis dit, mais tiens, moi j'adorerais prendre des photos. Et je pensais absolument pas que ça allait être mon métier. Et je m'en suis procuré un. J'ai commencé à faire des photos en voyage et j'ai adoré faire ça. Et quand je suis arrivée au Népal, je me suis dit, mais attends, t'adores faire des photos. Tu t'apprêtes à faire des mini-documentaires que peut-être personne ne verra, mais c'est ton kiff. Et personne ne veut de toi en coopération internationale. Et puis en plus, tu te dis que la vie des employés des Nations Unies ne te fait pas rêver. Donc, lance-toi. Et en fait, j'ai commencé à faire ces petits mini-reportages auprès de mon ami chaman, qui est devenu très vite mon pote, hein, donc de 80 ans. Il est mort à 75 ans, je crois, je ne sais plus. Bref, il a été adorable avec moi. Il m'a pris un peu sous son aile et donc il me laissait filmer comme ça, de temps en temps, sa vie. Et sur un mois, on a fait ça. Et en fait, il s'avère que un jour où je venais pour filmer, il y a une équipe de tournage qui est là, professionnelle, et qui cherche une assistante de réalisation. Et donc, le producteur me voit, il regarde mon travail, il voit comment je bosse, il me dit « mais t'as fait une école et tout ?» Je dis « bah non, je kiffe quoi, et c'est juste ça. » Et il m'a engagée. Et en fait, c'est comme ça que j'ai mis un pied dans l'audiovisuel, alors qu'à la base, j'étais en train de chercher un job en ONG, dans les ambassades, enfin dans la suite logique de mes études. Et en fait, c'est seulement parce que j'avais acheté cet appareil photo à Paris quand j'étais étudiante que je me suis retrouvée en fait dans cette équipe de tournage et que pendant un an, j'ai couvert des festivals culturels du Népal. Je suis allée dans les montagnes, j'ai rencontré des chamans, j'ai découvert un mode de vie et des sagesses ancestrales qui sont très riches, très denses, complexes, et ça m'a énormément nourrie.
Tu veux en parler un peu de ça, justement, de ce que tu as vu, découvert, cette sagesse dont tu parles ?
Mais encore une fois, tu vois, on parlait de bon sens, et je crois que la sagesse des Népalais, tu vois, au début, j'avais l'impression que c'était des personnes qui regardaient le temps passé, quoi. Et c'est littéralement ça. Ils regardent le temps passé. Tu te dis, mais c'est des fainéants, qu'est-ce qu'ils font de leur vie ? Et puis en même temps, ils sont hyper gentils, hyper heureux. Bon, ils ont leurs problèmes comme tout le monde, il ne faut pas idéaliser, hein, mais ils ont vraiment le cœur sur la main, quoi. Les Népalais ne sont pas méchants, soi. C'est-à-dire que tu croises un Parisien, je ne pense pas qu'il va t'aider à retrouver ton chemin pour prendre la station de métro qu'il faut, tu vois.
Alors, on ne se met pas à dos tous les Parisiens. Messieurs les Parisiens, mesdames, vous n'êtes pas tous pareils. On sait très bien que dans le métro, il y a des gens qui sourient, que vous n'êtes pas toujours en post-dépression, en burn-out, et que globalement, vous kiffez votre life à vivre dans une ville qui vit à 100 à l'heure, avec autour de vous du bruit, des pigeons et du bruit.
Voilà.
Voilà. Bon, donc, vous avez compris, hein, on est de la province, nous, hein, donc c'est pour ça.
Bon, les pauvres Parisiens. Bref, il faut aller au Népal. Et donc, ouais, tout ça pour dire que je pense que cette sagesse-là, eh bien, c'est justement de regarder le temps passé. D'accepter aussi et de s'adapter à ce qui arrive Et c'est ce qu'ils ont fait quand il y a eu le tremblement de terre. Moi, j'avais l'impression qu'ils étaient dans une acceptation un peu fataliste. Mais en fait, c'est juste que c'est le karma. C'est comme ça que les choses doivent se passer. Donc, pourquoi lutter contre en s'excitant, en se mettant en colère en fait, tu perds ton énergie. Donc, ils étaient dans l'acceptation. Les Occidentaux voulaient les aider. Aidez-nous. Reconstruisez nos maisons. Il n'y a pas de problème. Et puis, ils s'adaptent à toutes ces nouvelles stratégies qu'il faut mettre en place pour survivre, pour reconstruire, etc. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment une des sagesses, des messages que j'ai appris de cette sagesse-là népalaise, c'était de savoir regarder le temps passé et de s'adapter, d'être dans l'adaptation et de ne pas être à tout prix dans la résistance et aller à contre-courant. Chose qu'on fait beaucoup en Occident, en fait.
C'est un peu du stoïcisme, tout ça, quelque part.
Oui, totalement. Totalement.
Voilà, on vous laisse regarder stoïcisme sur Wikipédia. Qu'est-ce que je voulais te demander ? Une des choses qui me fascine chez toi depuis que je te connais, à travers ta façon d'entreprendre, du coup, donc de ne dépendre que de toi, finalement, pour fonctionner, c'est que tu nous gères un petit jardin de 3 hectares et demi, je crois.
Je ne suis pas toute seule, il y a mon chéri aussi quand même.
Ouais, enfin bon, 3 hectares et demi à deux, merci beaucoup. Hein, voilà. Et que tu donnes, en tout cas, alors je ne sais pas si c'est le cas, mais je pense que oui, mais tu donnes cette sensation que voilà, tu prends le temps, au-delà de cette vie professionnelle qui est occupée, à t'occuper d'autres choses que ça. Et tu peux nous en dire un mot de ça, parce que ça revient souvent dans ta communication, on va dire.
Oui.
Ou dans toi, parce que c'est toi au final. Mais...
Je pense que c'est encore un enseignement de mes parents, c'était de multiplier les sources de curiosité à travers différentes disciplines, différentes sources d'informations. C'est passé quand j'étais petite à travers les livres. Et donc, on nous faisait lire énormément. Et donc, à travers un livre, on découvre de nouvelles cultures, de nouvelles histoires, de nouvelles façons d'appréhender le monde, que ce soit à travers le conte quand tu as 10 ans ou à travers des romans quand tu as un peu plus de maturité et que tu découvres des manières de vivre du 18e siècle, du 20e siècle, bref. On m'a donné beaucoup de livres entre les mains. Et en fait, je pense que c'est ça. Et puis, parce que je suis franco-mexicaine, je ne peux pas m'empêcher de diversifier mes sources d'inspiration. C'est impossible que je ne fasse pas. Enfin, je ne peux pas faire autrement. Et donc, c'est vrai que le gros problème, c'est que j'aurais tendance à me disperser. Mais en même temps, j'y vois un sens aujourd'hui, dans le sens où la formation que j'ai entreprise en phytothérapie il y a un an, tu vois, je me dis, mais pourquoi je fais ça ? Pourquoi je me disais, non, mais attends, mais ça n'a rien à voir avec mon job, mais ça me plaît, ça me fait kiffer. Mais des fois, tu te dis, mais pourquoi je fais ce choix-là ? Bon, encore une fois, je vais dans vers le cœur, en fait. Donc, je laisse parler mon cœur, je le laisse s'exprimer, je lui laisse de la place. Et en fait, tu vois, il y a 2 jours, j'ai signé un compte, enfin, non, pas encore signé, mais je vais bosser avec une personne qui a un compte Instagram, etc., axé sur la nature, sur les plantes, etc. Et en fait, il m'a engagée. Et parce que, justement, j'ai ce background sur les plantes, sur les plantes médicinales, sur leurs bienfaits, donc c'est dingue en fait. Donc tu vois, encore une fois, c'est comme avec l'appareil photo, avec les plantes médicinales, avec les événements de la vie en lien avec la mort qui ont fait que j'ai créé ce podcast. Comme tu disais, la vie est un chemin et on arrive à tracer un peu les points entre cette chronologie bien plus tard, en fait. Et en plus, on ne s'y attend tellement pas. Et c'est là que tu te dis, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je me dis, je fais, bon, finalement, d'avoir suivi mon cœur, même si des fois le compte en banque était au ras des pâquerettes, eh bien, ça m'a menée là où je suis aujourd'hui. Et là où je suis aujourd'hui, je suis heureuse.
Et ça se voit et ça s'entend. Et c'est très chouette de partager ça. Tu vois, j'ai toujours le sentiment, effectivement, que la vie est un chemin. Et à partir du moment où on lâche prise, alors facile à dire.
Ouais, c'est très dur.
On est d'accord, hein, les gens qui écoutent, je mets des gros guillemets. C'est facile à dire. Lâcher prise, à un moment donné, se dire, entre guillemets, je prends des risques, façon de parler. Ah, et en fait, quand tu réfléchis bien, mais finalement, quel risque tu prends ? Quel risque tu prends ? Parce que tu peux aujourd'hui, globalement, prendre une initiative, te lancer, te consacrer, peu importe sur quel sujet, hein, que ce soit professionnel d'ailleurs ou personnel, hein, à autre chose que ce qui nous est imposé, entre guillemets, visible, j'entends, hein, j'entends quelque chose de visible, au quotidien. Ça fait 4 ans que je ne regarde plus la télé. Ça fait 4 ans que je ne regarde plus les infos, du coup. Et tant mieux. et globalement, voilà. Alors, il y a certains qui pourraient dire, ils se voilent la face, etc. Mais en fait, non. Parce que de toute façon, dans la vie, je pense que quoi qu'il peut arriver, au final, tu n'as pas toujours le contrôle sur tout et tu es loin d'avoir le contrôle sur tout. Et je pense qu'en fait, on fait tous plein de trucs, tout le temps, dans un seul but, si tu vas creuser vraiment, c'est de fuir cette idée qu'un jour, on va tous crever.
Ouais.
Et à un moment donné, en fait, quand tu arrives au stade, alors je partage un peu, mais quand tu arrives au stade de te dire, OK, si demain je meurs, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? De toute façon, voilà. En gros, je ne suis plus là. Je ne suis plus là, en tout cas, je ne suis pas ici, je suis peut-être ailleurs, j'en sais rien du tout. Mais je ne suis plus là. OK. Autant à la limite partir avec le moindre regret possible, le moins de frustration possible, le moins de ce que tu veux possible. Voilà. Donc après, je pense qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de petites et de grandes actions, mais je pense que j'ai déjà répété pas mal de fois dans ce podcast. Mais l'essentiel, c'est de faire et de s'écouter, comme tu dis, puis de choisir le cœur. Il n'y a que ça. Bref, parenthèse. Quand comme tu le sais, le podcast, il est soutenu par l'Association des entrepreneurs humanistes. Si je te dis le mot humaniste, c'est quoi pour toi ? Ça t'évoque quoi ?
Moi, je pense tout de suite à mes études en hypocagne. Donc, du coup, le mot humanisme, ça me renvoie à Montaigne. Ça me renvoie à ces hommes. On mettait en avant les hommes à cette époque-là. Donc, à ces hommes-là qui étaient très férus de littérature, de philosophie, qui s'intéressaient à plein de choses à la fois. Et justement, qui multiplier leurs sources d'informations, leurs sources de plaisir intellectuel. Et pour moi, c'est ça le mot humanisme. C'est vraiment de s'ouvrir le plus possible, d'être comme un atome poreux, tu vois, qui laisse passer comme ça, qui se laisse traverser par plein de choses à la fois, mais pour se nourrir de ces choses-là. Et encore une fois, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression, quand on sort de l'école, on dit « qu'est-ce que tu vas faire dans la vie ? Choisis un métier, tu t'enfermes à vie dans ce métier-là et tu fais rien d'autre. Et puis voilà, tu crées ta petite famille, tu continues toujours dans le même métier, tu t'intéresses à rien d'autre. » Et je trouve cette image tellement… moi, tu vois, j'ai le cœur qui se serre, tu vois, j'ai cette vision-là. Ben non, mais c'est tellement enfermant, c'est tellement emprisonnant. C'est tellement dommage de se priver d'autres sources de plaisir intellectuel, de plaisir artistique, créatif. Donc, ça, c'est rassurant de choisir une direction. C'est rassurant d'avoir un métier ultra stable qui permet de payer ses factures à la fin du mois et d'être rassuré, etc. Mais alors, je trouve qu'à côté de ça, quand on regarde dans les coulisses, je vois des gens qui sont desséchés, qui sont asséchés intellectuellement, qui sont en dépression, parce qu'ils ne se laissent pas l'opportunité de faire d'autres choses. Même des personnes qui auraient les moyens de le faire, hein, j'entends bien. Et je pense absolument pas que ça soit le privilège de gens riches que de s'instruire et d'accéder à d'autres façons de penser. C'est-à-dire que maintenant, on a tous accès à YouTube, on a tous accès à plein de choses. C'est-à-dire qu'on a vraiment la possibilité de découvrir beaucoup, beaucoup de choses. Et je pense vraiment que c'est la société dans laquelle on vit qui nous enferme, en fait, dans un seul chemin, une seule pensée, un seul mode de vie.
Et ouvrez pour moi, les portes, messieurs, dames.
Donc, pour répondre à ta question, le mot humanisme, c'est ça. C'est vraiment s'ouvrir à plein de disciplines différentes, à plein de manières de vivre différentes, et de se nourrir de ça et de s'inspirer de ça.
Habituellement, je pose la question, mais je ne vais peut-être pas la poser, parce qu'en fait, t'as bien... je pense que... En général, je pose la question de s'il y avait un seul truc que tu voudrais transmettre, ça serait quoi ? Mais en même temps, tu as tellement répété 14 fois « faut suivre son cœur et s'écouter » que globalement, je ne vais pas te la poser. À moins que tu aies quelque chose à ajouter, mais je pense que peut-être pas. Peut-être que oui, peut-être que non.
Non, bah, moi, je pense, ouais, voilà, tu as bien résumé.
Merci. Question d'après.
Puis le podcast, c'est ça, Fleur de Cactus, vu qu'il est axé sur la mort, tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le message de Fleur de Cactus, c'est essayer de vivre une vie pleine, sans regret, pour pouvoir regarder derrière soi et d'être fier des choix qu'on a fait, d'être heureux, heureuse d'avoir fait les choses qui nous ont fait kiffer. Et je crois que le plus horrible pour moi, ça serait d'être sur... Enfin, je pense personnellement que ça n'arrivera pas, mais d'être sur mon lit de mort et de me dire « Pourquoi je n'ai pas fait ça ? Pourquoi je... » Ça serait horrible. Enfin, moi, j'ai toujours fait mes choix, même si j'ai pu galérer et même si ça n'a pas été toujours facile, j'ai fait toujours les choix que me dictait mon envie.
Si tu devais nous partager... une ressource, un truc, un livre, un doc, ce que tu veux, un seul, hein. C'est quoi ? Ou c'est quoi ton livre de chevet ? Oh, putain. Ou alors, c'est dans ce sens-là, comme tu veux la question.
Tu veux que je te lise juste posé devant ma... trois, cinq livres devant moi. C'est tellement différent, tu vois, il y a la phytothérapie entre science et tradition, yoga nidra, s'initier à l'astrologie, encyclopédie des symboles, dictionnaire des plantes médicinales. En fait, c'est dur pour moi de répondre à cette question.
Et puis, tu as triché, tu viens déjà d'en balancer 5, là. C'est quand même pas très... c'est pas ce que je t'ai demandé. Hein.
Ben ouais, je sais, mais c'est pour te montrer. Je suis pas... Faut que tu me laisses réfléchir. Peut-être que je peux répondre à cette question à la fin de l'interview.
Tu peux.
Merci.
Mais du coup, tu vas être embêté parce que je vais te dire, mais du coup, ben, si je devais te laisser le mot de la fin, ça serait quoi ?
Écoute, pendant que tu m'expliquais un peu, tu me faisais le pitch de ce podcast, tu m'as dit que le podcast s'appelait Sage et je regardais en fait l'étymologie du mot sage. Et le mot sage, ça vient du mot sapere en latin. Qui veut dire avoir du goût, aller dans son bon sens. Et donc, je pense que il est utile, il serait utile de développer cette capacité qu'on a toutes et tous de savoir ce qui peut résonner avec nous-mêmes, avec notre propre goût, avec nos propres habiletés. Et je pense que comment faire ça, c'est de s'arrêter un moment, d'arrêter de lâcher. On parlait de lâcher prise, mais en fait, il faudrait peut-être déjà commencer par lâcher ce qu'on fait dans le moment présent. Que ça soit avec son téléphone, que ça soit, je ne sais pas, créer une facture pour un client, que ça soit crier après ses gamins. Moi, je n'en ai pas, donc je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Mais juste de ressentir en soi qu'est-ce qui... va dans notre sens là maintenant tout de suite et je pense qu'il y a des réponses parfois qui sont surprenantes. Moi à un moment donné quand je me suis dirigée vers les plantes médicinales, j'étais sur mon canapé et je me disais mais j'ai envie d'apprendre quelque chose mais je sais pas quoi. J'ai respiré un bon coup et je me suis dit mais tiens mais c'est les plantes en fait, c'est faire des semis, c'est apprendre sur ça, c'est essayer d'être résiliente aussi. On nous parle d'écologie à longueur de temps et on nous met dans une culpabilité qui est écrasante, qui en plus rajoute encore plus d'anxiété à des gens, nous pauvres occidentaux, qui sont piégés dans cette culpabilité, et qui est aussi judéo-chrétienne, soit dit en passant. Bref, et je pense que c'est par l'action qu'on va pouvoir se libérer de cette culpabilité-là, en apprenant sur les plantes, en se demandant comment fonctionne une graine, comment une fleur déjà germe, comment, plutôt que d'aller rouspéter après ces personnes qui détruisent l'environnement et puis se culpabiliser parce qu'on n'est pas assez écolo. Ben en fait, non, je suis persuadée que déjà en faisant un geste, c'est-à-dire sur le terrain, concrètement, ça peut déjà nous procurer tellement de bien et de plaisir que la culpabilité n'a plus de place, en fait.
Merci, Susanna.
Désolée pour la digression.
c'est pas grave, elle ne sera pas coupée au montage. Ok, merci pour ce moment. Du coup, tu as eu le temps de réfléchir au bouquin ? Bah non, peut-être pas.
Non, mais par contre, je pense qu'un bouquin qui peut être intéressant à garder, c'est peut-être, moi je suis à fond dans les plantes en ce moment, donc c'est vrai que d'avoir un dictionnaire des plantes médicinales, c'est toujours utile. C'est apprendre sur les vertus que les plantes peuvent nous apporter dans notre vie au quotidien. C'est de savoir comment transformer ces plantes-là qui nous entourent, c'est-à-dire que même en ville, on est à même de croiser une petite plante qui pousse comme du plantain ou que sais-je, c'est tellement coriace comme plante. Bref, on est entouré par la nature, il suffit d'aller dans un parc en milieu urbain qu'il va y avoir des tilleuls, il va y avoir des chênes, on peut faire tellement de choses déjà avec ces choses-là. Et donc, je pense que c'est un livre que j'aimerais garder très longtemps auprès de moi.
Est-ce que tu as passé un bon moment, Susanna ?
Oui, j'ai passé un bon moment. Merci beaucoup, Teddy.
Bon, bah, c'est chouette. Merci à toi d'avoir partagé ça avec nous. Voilà, merci à vous qui écoutez, d'avoir écouté. Et puis, je te dis à très bientôt.
À très bientôt, avec grand plaisir.
Allez, salut. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Ce podcast est rendu possible par l'Association des entrepreneurs humanistes. N'hésitez pas à partager ce podcast, à en parler autour de vous. Et je vous dis à bientôt. Salut.